du GIEC, injonction à la sobriété énergétique et augmentation du prix de l'énergie, comment inciter toujours plus à l'action face à des réponses insuffisantes des pouvoirs publics? Chers auditeurs, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la semaine du 17 au 21 avril consacrée à l'énergie et à la terre. Le BDA et l'APNA, deux associations de Sciences Po, s'allient pour proposer de multiples événements pour s'informer et agir pour la planète. Je vous récapitule tout ça ici. Mardi, une conférence est organisée sur le thème de la planète et de son état des lieux. Ensuite, les Sciences Pistes se donneront rendez-vous pour la fameuse soirée Sciences Po Got Talent. Mercredi, tout le monde est appelé à participer à la Clean Walk avant de profiter d'une projection du club ciné ou autour d'un jeu de société. Jeudi, rendez-vous pour la journée de la Terre et le soir, une soirée vous sera proposée. Finalement, on finira la semaine avec une fresque du climat organisée par Sciences Po vendredi. À cette occasion, j'accueille aujourd'hui sur le plateau Élise, Simon, Colomba et Anna.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons évoquer de nombreux sujets, tous liés à une thématique très actuelle, l'art engagé. Pour commencer, qu'est-ce que l'art engagé pour vous ?
Ok. Du coup, pour moi, l'art engagé, c'est de l'art qui est censé faire passer un message et donner son point de vue pour essayer de convaincre les gens d'adhérer à une idéologie, à un mouvement. Voilà.
Peut-être qu'on peut aussi différencier deux types d'art engagé. Par exemple, il y a l'art qui est engagé dans son message, mais aussi l'art qui est fait de manière engagée. Par exemple, si on pense à la mode, il y a des façons de faire les vêtements qui sont engagés, mais le message dans lui-même des habits n'est peut-être pas engagé, et des fois c'est l'inverse, donc il y a peut-être ces deux choses à prendre en compte.
Alors là, je vais poser une question qui est un peu plus générale. Quel est votre rapport à la crise climatique actuelle? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça?
Moi, je dirais que mon rapport à la crise climatique, il est plutôt construit dans le temps. Parce que comme je viens de milieu un peu privilégié, je viens de Cannes et vivant à Aix, on n'a pas de conséquences directes, à part peut-être la chaleur l'été, de la crise climatique. Et c'est plutôt en s'informant, en voyant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les médias, qu'on se rend compte du réel impact et qu'on en prend conscience. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire, je pense.
Du coup, mon rapport à la crise climatique, déjà, j'ai pris conscience du réel problème, on va dire, au lycée. Et du coup, j'essaye depuis de m'engager au maximum, même si je ne le fais pas encore associativement, mais individuellement, j'essaye en tout cas. Et donc aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi encore certaines personnes sont indifférentes à ce problème qui concerne littéralement tout le monde, et surtout avec les actualités qui font de plus en plus peur. Donc vraiment, engagez-vous pour le climat.
Ok, et comment vous vous êtes retrouvé en fait à vous poser des questions sur le thème de l'écologie? Parce que toi, tu dis oui, j'en ai pris conscience à peu près au lycée. C'était comment ça?
En fait, je sais pas s'il y a eu vraiment de déclic, je m'en souviens plus, mais je pense que c'est surtout les actualités parce que en fait, ça va de plus en plus mal et on le voit grâce aux médias. Et donc, je pense que ça m'a fait juste prendre conscience vraiment des enjeux qui nous concernent et c'est notre futur quoi.
Personnellement, je pense que ça a commencé un peu plus jeune pendant l'enfance parce que je regardais beaucoup de documentaires animaliers et ces médias ont une particularité, c'est qu'ils n'hésitent pas à donner des messages très défaitistes, voire catastrophistes à la fin des documentaires. Donc on a toujours des super espèces qui étaient présentées. Moi, j'adorais les animaux et à la fin, ils disaient il ne reste que 5. On était là, ah mince. Et du coup, je pense que c'est là que le truc est né quoi, pour moi, personnellement.
Est-ce que vous avez des manières de vous engager et de suivre peut-être vos principes, d'appliquer vos principes dans la réalité, de façon pratique ?
Moi, je pense que j'ai soit... En fait, toutes les actions individuelles, elles ont un intérêt. Genre, des trucs tout con, mais éteindre la lumière, débrancher ses prises, faire arrêter l'eau quand on... Enfin, arrêter l'eau, c'est des trucs qui sont tout con, mais si tout le monde les fait, par association et addition, ça fait que ça peut avoir un réel impact. Donc ça, c'est un peu la base, je pense.
Du coup, pour répondre à la question, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaie de m'engager individuellement pour cette cause. Et en fait, j'en suis particulièrement fière, donc je vais vous partager aujourd'hui. Là, ça fait 5 ans que je suis végétarienne, et donc j'ai commencé progressivement depuis le collège. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais manger de la viande a un réel impact sur notre environnement et l'industrie en général de la viande. Vraiment, c'est impressionnant. Et donc, je voulais faire passer un petit message peut-être, au moins ne pas devenir végane ou végétarienne, mais au moins peut-être limiter votre consommation de viande, et vraiment ça aura un réel impact sur l'écologie.
Moi, je dirais que le plus difficile en tant que militant, c'est de vraiment ouvrir les yeux sur ce qu'on achète, ce qu'on fait et à quel point ça a des conséquences. Parce que c'est facile de regarder l'impact qu'a peut-être la production textile, etc. Mais le fait de ne pas acheter, c'est encore une autre chose. Donc, je dirais le fait de vraiment ouvrir les yeux et de vraiment se renseigner jusqu'à ce que même ça fait un peu mal parfois.
Alors, je vais revenir à la thématique principale et en vous demandant peut-être une de vos œuvres engagées préférées, une qui vous a beaucoup marqué, intéressé.
Alors, sur le thème de la consommation de viande, moi j'ai beaucoup aimé le film Okja de Bong Joon-ho, qui est du coup un film qui est très décalé, mais qui parle en gros d'une nouvelle espèce de cochons qui sont génétiquement modifiés, qui est introduite sur le marché, qui est censée être parfaite d'un point de vue de la consommation, par exemple, de nourriture, qui est très écolo. Et du coup, il y a toute une intrigue autour du fait que ces cochons sont envoyés aux quatre coins du monde pour être élevés par des personnes différentes. Finalement, on se rend compte que c'est une grosse opération de greenwashing et que ces cochons sont extrêmement maltraités. Tout le film est centré sur ça. Et du coup, c'est un film qui est très touchant et qui est très parlant en termes du coup, de consommation de viande et de greenwashing. Voilà, donc j'aime beaucoup ce film.
Moi, ce serait plutôt une œuvre de Banksy, ça s'appelle « I don't believe in global warming ». Et je crois que c'était en 2009-2010, il y avait une conférence à Copenhague. Pardon. Et finalement, les gouvernants avaient décidé de rien faire, mais ils avaient dit qu'ils reconnaissaient qu'il y avait un problème, mais de ne pas mettre de mesures en place. Et il avait donc écrit ça dans un canal à Londres. Et en fait, on voit que l'eau submerge le message pour dire qu'il y a vraiment un problème climatique. Et je trouve que ça résume bien ce que devrait être l'art engagé, accessible à tout le monde et percutant. Voilà.
Du coup, l'œuvre dont j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est le morceau du pianiste Ludovic Einaudi. Donc, c'est un pianiste italien. Et en juin du coup, 2016, il joue un morceau qu'il a spécialement composé pour l'événement sur la banquise au large de l'Arctique. Et donc, ce projet est à l'initiative de la Greenpeace, une association que vous connaissez sûrement, et qui avait pour but de sensibiliser en fait, l'opinion sur la préservation de l'Arctique. Et j'ai particulièrement aimé cette œuvre. Bon, bah, déjà, rien qu'au son, le morceau est merveilleux à entendre. Et au-delà de ça, visuellement, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, quoi qu'elle avait fait un peu le tour des réseaux à cette époque, je l'ai vraiment trouvé très poétique de le voir jouer avec toute son âme sur cet énorme piano posé sur un bloc de glace. Et en fait, au cours de la vidéo, on voit des blocs de glace fondre littéralement sous ses pieds. Donc, je trouve ça vraiment très poétique. Et surtout le fait qu'il utilise son art au service de l'écologie. Et là, notamment, il voulait faire une prévention, on va dire, sur la fonte des glaces. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé.
Et moi, du coup, je ne sais pas si c'est mon œuvre préférée, mais j'ai vu un film, le film Bigger Than Us, de Flore Vasseur. Et ça parlait, enfin ça montrait des jeunes militants engagés donc pour l'écologie dans plein d'endroits du monde, et donc ça permet de changer de vision de l'écologie qui est pas justement comme disait Anna tout à l'heure un peu privilégiée ou quoi, mais dans les régions où les gens sont vraiment impactés en première ligne quand les eaux montent vraiment ou dans les centrales à de déchets, voilà. Donc ça m'a beaucoup impactée.
Alors, merci beaucoup pour tous vos exemples, ils sont vraiment parlants. Et en fait, je trouve qu'ils s'inscrivent tous dans une temporalité où on voit émerger de plus en plus d'actions individuelles comme ça, artistiques. Mais au final, est-ce qu'elles ont réellement un impact concret? Quelles ont été les conséquences des exemples que vous avez cités, par exemple? Voilà, est-ce que l'art engagé peut-il faire changer les choses?
Je dirais que quand on dit impact, on s'attend à ce que les gens aillent voir une exposition par exemple sur la forêt et ressortent à changer toutes leurs habitudes. C'est incroyable. Moi, je vois pas l'impact de cette manière. J'ai plus que c'est poser des questionnements aux gens qui vont être observateurs de cet art. C'est un peu le truc que disait, ça a l'air très philosophe, Oscar Wilde lui disait « Avant, on voyait pas les brouillards jusqu'à ce que l'artiste mette à les peindre et maintenant, on les voit partout. » C'est un peu ça, placer la crise climatique au centre de notre vision et que des choses qui paraissaient pas comme critiques le paraissent désormais. Je sais, c'est clair.
Oui, moi, je pense aussi que ça dépend vachement aussi du moyen de l'art qu'il choisit. Je sais que dans le cas des films ou des supports vidéo, comme pour l'exemple de Columba, c'est des choses qui parlent beaucoup, qui sont facilement visionnables et qui peuvent avoir un impact sur des mentalités à grande échelle. Après, de là à dire que ça a un impact sur la situation planétaire en général, j'irai pas jusque là, mais ce qui est sûr, c'est que ça permet de mettre un focus sur la thématique et d'essayer de lui faire prendre l'intérêt qu'elle mérite aux yeux du grand public, donc c'est vraiment positif.
Et justement, là, tu parles de plusieurs supports, quels sont les différents supports qui existent et est-ce que l'efficacité, et je mets des guillemets là-dessus, est-ce que l'efficacité des supports diffère selon ce qu'ils sont? Est-ce que par exemple une vidéo va plus toucher les gens parce qu'elle peut être republiée, ou alors un acte comme replanter quelque chose et se mettre en scène devant des gens va être plus efficace?
Bah après, du coup, la question là, c'est qu'est-ce qu'on considère comme de l'art au final, et du coup, qu'est-ce qu'on considère comme de l'art engagé? Et je pense qu'on peut tout considérer comme de l'art en soi tant que la personne qui le fait décrète que c'est de l'art. Donc ça peut aller du film à la performance artistique, au dessin, à la pièce musicale. Mais c'est vrai que selon moi, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une facilité de consommation envers certains médias qui fait mécaniquement que ces médias-là, s'ils sont engagés, ils auront plus d'impact. Après, voilà, l'impact en lui-même, je ne sais pas si il est vraiment un impact profond et structurel, ou si c'est un peu plus de l'ordre du divertissement des fois. C'est une question qu'on peut se poser avec certains exemples. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a plus, je pense, plus d'impact dans des médias tels que la vidéo ou que les films, qui permettent vraiment une immersion et un partage aussi plus grand, selon moi.
Ouais, je pense que c'est pas parce que c'est divertissant que forcément ça va moins toucher, parce que peut-être que le but premier, c'est d'attirer le plus grand monde, donc on se dit que c'est pas forcément positif. Mais si au final le message passe, je sais, par exemple à Nice, ils avaient installé un paquet de cigarettes écrit « Ceci est fait par un paquet de gros cons », quelque chose comme ça, où en gros c'était plein de mégots et c'était fait sous l'égide d'une œuvre d'art. Et c'était très simple, le but c'était juste de choquer, c'était d'ailleurs illégal comme il l'avait placé. Et c'est pas grave, parce que finalement ça touche et c'est ce qui est important, je pense.
Juste, oui, du coup je voulais rebondir sur ça, que l'art c'est pas forcément que du sérieux. Et comme ils l'ont dit, justement, divertir, ça peut être au final un bon moyen d'accéder à un plus grand public. Et donc j'ai pensé, en parlant au film Don't Look Up d'Adam McKay, qui était sorti, je crois, sur Netflix avec des acteurs très connus comme Leonardo DiCaprio. Et je pense qu'un grand nombre a pu avoir accès à ce film et le voir. Il était assez facile à visionner. Franchement, il était assez comique, absurde. Mais au final, le message était assez clair, quoi. C'était le réchauffement climatique a un impact concret sur la planète. Faites attention. Donc voilà, au final, c'était très divertissant, mais à la fois engageant.
Après, forcément, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je voulais plus dire, c'est que, par exemple, dans vos deux exemples, vous dites qu'il y a un impact, et franchement, je pense vraiment qu'il y a un impact sur les mentalités. Mais par exemple, je ne sais pas si on, par rapport aux cigarettes à Nice, si on peut mesurer un impact concret dans les habitudes des gens grâce à cette œuvre d'art. Je sais que ce n'est pas forcément le but, mais il y a un aspect, selon moi, de la question où l'impact il va beaucoup survenir chez les personnes qui sont déjà sensibilisées souvent. Je sais que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, voilà, dans des actions comme ça ou dans certains moyens d'action, ça va peut-être concerner des gens qui sont déjà sensibilisés. Et, oui. L'art engagé qui se dépasse, c'est un art qui arrive à être assez accessible, assez clair et assez impactant pour vraiment avoir un impact plus transversal, selon moi. Et je suis sûr que c'est le cas de plein d'actions. Hein,
c'est pas, oui, je suis d'accord. Je pense que ça va forcément faire arrêter de jeter les mégots à ceux qui le font, par exemple. Mais c'est peut-être juste de se dire, ah bah, y en a quand même autant que ça. Et juste d'être mis face au problème, alors qu'on ne s'attendait pas à être mis face au problème. Et ça ne va peut-être pas changer sur le long terme, mais ça fait quand même une petite prise de conscience.
Tout à fait.
Justement, j'ai réagi directement. Est-ce que ça veut dire que c'est facile de s'intéresser à l'art engagé? Mais ça pose aussi une autre question. Est-ce qu'on a tous les clés pour analyser l'art engagé? Ou est-ce que ça ne dépend pas, par exemple, de notre origine sociale, de notre milieu? Ou alors, est-ce que c'est plutôt lié à la sensibilité de chaque personne?
Je pense que l'information est difficile d'accès. Par exemple, savoir où il y a des expositions, savoir où il y a de l'art engagé. Mais une fois qu'on est devant, c'est quand même plutôt simple, dans le sens où c'est toujours expliqué, généralement. Et il y a beaucoup d'expositions où c'est juste, par exemple, des déchets qu'on a sortis d'endroits un peu improbables. C'est souvent des choses très simples. Mais je pense que c'est juste savoir où ça se trouve, qui est plutôt difficile. Je pense
que vous en pensez. Après, moi, je ne suis pas trop d'accord que c'est difficile d'accès, parce que maintenant, on a Internet, les réseaux sociaux. Enfin, Selon moi, en un clic, on peut avoir toutes les informations qu'on veut sur n'importe quel sujet. Et je pense pas que ce soit... Enfin, sauf si, bien sûr, des personnes n'ont pas accès à Internet, ça, je peux le concevoir, mais c'est assez quand même simple, je pense, de s'informer à ce niveau-là et de trouver où se trouve telle ou telle exposition sur l'art engagé. Ou même, parfois, il y a des œuvres dans la rue. Donc, ça peut être un moyen direct de s'informer indirectement. Donc, c'est pas forcément totalement difficile d'accès, enfin, je pense.
Bah, d'un côté, je suis d'accord, mais je pense que le vrai problème, c'est pas forcément avoir les clés pour arriver à décrypter l'art. C'est surtout... par exemple, se sentir légitime. Je sais que selon le milieu social, il y a des différences de légitimité à consommer certaines formes d'art. Et du coup, forcément, ça va priver certaines personnes d'accès à certaines formes d'art. Et c'est quelque chose pour lequel on peut changer les choses parce qu'il y a plein de politiques culturelles qui sont menées. Mais factuellement, si on a une exposition qui a pour habitude de toucher une certaine catégorie de la population, ça ne va pas avoir un impact égal sur toute la société, et c'est quelque chose, je pense, dont il faut avoir conscience, et c'est pour ça aussi qu'il faut diversifier les actions d'art engagé, selon moi. Je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs supports qui soient mobilisés, et que tous les supports soient rendus accessibles à toutes les catégories de la société.
Ouais, moi, je suis d'accord avec Colomba, je pense que c'est facile de rechercher sur Internet. Je pense que le pas le plus difficile, c'est de se mettre à chercher sur Internet, que ce soit la flemme, le manque de sensibilisation, le manque d'intérêt, et c'est juste de pousser les gens à s'y intéresser et à aussi, comme disait Simon, à se sentir légitime d'aller chercher ça.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre l'art qu'on pourrait qualifier de traditionnel, donc par exemple les classiques, Van Gogh, etc., et l'art engagé qui se veut, qui peut se vouloir peut-être plus ouvert et toucher plus de monde?
En fait, oui, non. Enfin, c'est, je trouve que les similitudes, c'est dans tous les cas, généralement, ça fait passer un message. Enfin, il y a beaucoup d'œuvres d'art traditionnel qui veulent faire passer un message, bien qu'ils ne soient pas forcément engagés ou qui racontent juste une histoire, en fait. Donc, après, là, c'est un débat autour de l'art, à quoi sert l'art au final. Mais bon, pour moi, ça fait passer dans tous les cas un message, peu importe la nature de ce message. Mais après, c'est vrai que l'art engagé est particulièrement revendicateur, je ne sais pas si ça se dit. Donc, il fait particulièrement... il veut faire éveiller les consciences. Enfin, il y a vraiment un réel intérêt social derrière, je trouve. Donc, il y a des similitudes et des...
Donc, ça veut dire que pour toi, l'art engagé, parce qu'il va appeler le plus grand monde, etc., il va rompre les barrières de l'art traditionnel, enfin, par exemple, de ce que peut constituer un musée en tant que barrière. Je sais pas si vous...
Déjà, pour moi, l'art engagé, justement, le but, c'est de rassembler le plus de monde possible pour se réaliser une cause. Et là, notamment ici, l'écologie, enfin, ça concerne littéralement tout le monde. Donc, le but, c'est que ça soit le plus facile d'accès pour tout le monde et que tout le monde s'intéresse. Ce que l'art traditionnel... ne fait pas forcément. C'est vrai que ça peut être des fois plus réservé à un certain type de public, puisqu'il n'a pas forcément de message à faire passer à tout le monde. Mais l'art engagé est censé être ouvert au plus grand nombre, selon moi.
Moi, je pense que j'ai peut-être un petit peu du mal à faire une distinction très claire entre art engagé et art traditionnel, parce que je pense qu'il y a vraiment une très très grande zone de flou, où il y a beaucoup de, comme a dit Colomba, hein, beaucoup d'art traditionnel qui fait passer un message et qui a eu un grand impact sur la société de son temps, et pour autant, ce n'était pas forcément des choses faciles d'accès, enfin, ça dépend vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de pièces qui ne se veulent pas engager, mais qui le sont au final, peut-être de manière implicite ou inconsciente, mais il y a beaucoup de pièces qui avaient un but purement esthétique ou descriptif, mais qui décrivent quand même quelque chose qui est une réalité, par exemple, sociale, et qui peuvent devenir engagées à leur tour quand on les regarde. Donc vraiment, pour moi, l'art engagé, c'est quelque chose de très très large. Et en fait, la majorité des œuvres artistiques, elles ont peut-être une part d'engagement au fond. Donc je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a quand même ce degré d'accessibilité qui est très important, mais qu'il n'est pas automatique dans l'art engagé. Voilà. Je ne sais pas.
Tout à l'heure, Simon, tu parlais de la légitimité à se rendre à des expositions, par exemple, mais qu'en est-il de la légitimité de celui qui produit l'art engagé? Est-ce qu'il y a besoin de se sentir légitime pour produire quelque chose?
J'ai beaucoup parlé avec Louise, qui fait son mémoire de Sciences Po, justement, sur l'art engagé pour l'environnement. Elle a rencontré beaucoup d'artistes, et elle pensait qu'ils faisaient ça forcément pour impacter les gens, et pour faire passer un message. Et souvent, les artistes lui répondaient qu'en fait, ils écrivaient à partir de ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils voyaient. Et donc pour eux, ce n'était pas une question de légitimité, parce que c'était juste parler de leur quotidien. Et par exemple, s'ils vivent à la campagne et qu'ils ont vu des changements sur la campagne dus à la pollution, etc., ils vont juste le décrire. Et si ça a un impact, si ça fait passer un message, tant mieux. Mais ce n'est pas forcément vu comme ça.
Après, oui, moi, je pense que c'est vraiment intéressant de se dire que juste en décrivant une réalité, on peut avoir un message quand même et être engagé. Et je trouve ça qui est beau dans l'art aussi. Et peut-être qu'il y a aussi certains artistes d'autres milieux artistiques qui se sentent pas légitimes de porter un message haut et fort de manière très directe. Et d'un côté, c'est compréhensible, et d'un autre, c'est peut-être aussi dommage, parce que je pense qu'on a tous un message à porter si on le cherche. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a peut-être certains artistes qui font face à un petit problème de légitimité parce qu'ils ne se sentent pas représentatifs ou qu'ils ont l'impression de vivre peut-être une vie privilégiée qui ne leur donne pas le droit d'avoir une voix engagée sur la place publique. Mais ce n'est pas forcément une fatalité. Ça, selon moi, ça ne doit pas les empêcher d'avoir un regard critique sur la société qui les entoure, quoi.
Et du coup, pour rebondir à ce qu'a dit Simon, je suis d'accord, il ne faudrait même pas qu'il y ait cette question de légitimité au final, parce que selon moi, tout le monde peut se revendiquer déjà artiste, puisqu'il n'y a pas de règles dans l'art, et tout le monde est concerné par le problème de l'écologie, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tous faire passer ce message via notre art, peu importe si c'est beau ou un peu moins esthétique, mais je ne pense pas qu'on devrait devoir être légitime pour faire passer un message aussi important et urgent que le climat, et au final, si vous voulez faire de l'art engagé, faites-le et vous restez pas borné par des limites que la société nous impose, comme quoi on n'est pas artiste ou quoi, vraiment, faites ce que vous voulez et soyez engagé à travers votre art.
Alors, merci pour ces belles paroles engagées, en tout cas. Je vais laisser Élise peut-être faire la promotion de la semaine qui arrive.
Alors du coup, la SDET, c'est la Semaine de l'énergie et de la Terre. C'est une semaine en partenariat entre le BDA et l'APNA. Et on vous propose donc plein de d'activités et d'événements autour de l'énergie et de la Terre. Donc comme a dit Sybille en début, vous aurez Sciences Po Got Talent. Donc ça, c'est un super événement. Vous pouvez venir montrer votre talent ou alors venir regarder les talents des autres. On a plein de petits groupes sympas qui sont inscrits, donc n'hésitez pas à venir. Il y aura la Journée de la Terre, mais ça peut-être que je laisse l'APNA en parler.
La Journée de la Terre, c'est sa deuxième édition. Et ça, en fait, c'est un événement qui se veut rassembler les associations de l'IEP et hors de l'IEP autour de la thématique du coup de l'écologie. Donc on a pour habitude de proposer des concerts, des quiz, des ateliers de sensibilisation. Mais je vais laisser Anna finir d'en parler parce qu'elle s'en occupe personnellement.
Comme on disait tout à l'heure, le but, c'est de faire de l'écologie, mais que ce soit aussi divertissant. C'est pour ça qu'on va retrouver aussi les barbeaux, le club dessin, le club photo, un peu tout le monde. Et de faire un dernier grand événement avec toutes les associations avant la fin de l'année, parce qu'après, il ne restera plus que le gala, malheureusement.
Et il y a aussi une clean walk le mercredi. Venez, c'est très sympa. Vous apprenez à ramasser tous les mégots de Aix. Donc voilà, c'est un pur plaisir.
Sciences Po et hors Sciences Po.
De tout le monde.
Et du coup, la SDET, c'est du 17 au 21 avril.
Eh bien, merci à tous pour ces informations et peut-être cette précision sur ce qu'est l'art engagé et tout ce qui tourne autour. En tout cas, pour tous les événements, je vous laisse checker sur les comptes Insta du BDA et de l'APNA. Donc, normalement, vous retrouverez toutes les informations en temps et en heure. En tout cas, rendez-vous à la semaine de l'énergie et de la Terre. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté ces belles paroles. Merci à tous les participants qui ont animé la discussion.
Merci. Merci.
N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Calisson sur toutes les plateformes et réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir.